Bonsoir à tous. Merci de votre patience. Donc vous m'avez peut-être croisé vous disant que Michel Lussault avait un petit peu de retard, ce qui explique que nous commençons nous-mêmes avec quelques minutes de retard. Il dit tout, son train vient d'arriver à Paris. Donc le temps de sauter dans un métro, il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. En attendant, donc, je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations pour cette nouvelle conférence du cycle Littérature en mouvement, éditer, dévoiler, traduire l'espace littéraire mondial. Alors, cette soirée est placée sous le signe des rapports entre géographie et littérature. Faut-il habiter le monde pour l'écrire? C'est pour répondre à cette question que nous avons le plaisir de recevoir ce soir Michel Lussault, qui arrive, et Philippe Vasset, qui est déjà là. Donc, avant donc de passer la parole à Philippe Vasset pour commencer et pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter nos deux intervenants. Donc, Michel Lussault est géographe, professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon, dans le laboratoire Environnement, Ville, Société. Il a un riche parcours dans le monde universitaire que vous n'hésiterez pas à trouver dans de multiples notices biographiques et notamment Wikipédia. Mais je veux vous rappeler plus particulièrement le rôle qu'il a joué ou joue dans différentes institutions liées à la géographie. Il a notamment en 2008-2009 coprésidé avec l'architecte Paul Chemetoff le conseil scientifique de l'appel à projet international Un Paris pour le Grand Paris. En 2010-2011, dans le cadre du programme Territoire 2040, lancé par la DATAR, il était responsable scientifique du groupe L'Urbain Métropolisé Français dans la mondialisation. Depuis 2010, il préside le conseil scientifique du PUCA, le Plan Urbanisme, Construction, Architecture du ministère de l'Écologie, de l'Environnement, du Développement durable et de la mer. Il est également le président depuis 2011 d'Arc en Rêve, un centre d'architecture à Bordeaux. Et depuis octobre 2012, il dirige également l'Institut français de l'éducation. Alors, nous l'avons invité ce soir pour toutes ces raisons, mais également parce qu'il est l'auteur d'ouvrages scientifiques et de nombreux articles que vous trouvez dans toutes les bonnes bibliographies universitaires et à la BULAC. Et notamment, il a co-dirigé avec Jacques Lévy les actes d'un colloque de Cerisy intitulé Logique de l'espace, esprit des lieux en 2000. Et il est donc le co-directeur, toujours avec Jacques Lévy, de l'ouvrage de référence que vous avez tous dans votre bibliothèque, Dictionnaire de la géographie et des espaces et des sociétés, paru en 2003. Et il l'a publié tout récemment aux éditions du Seuil, L'avènement du monde, essai sur l'habitation humaine de la Terre, où, comme il vous l'expliquera lui-même beaucoup mieux et très bientôt, nous l'espérons, où il plaide donc pour la réappréciation du rôle de l'espace urbain dans le monde et la société. Alors, quant à Philippe Vasset, qui se trouve à mes côtés, il est donc diplômé de géographie, de philosophie, de relations internationales, journaliste et écrivain. Il peut même compléter, voire corriger cette biographie, puisqu'il a la chance d'être là pour l'entendre. Il a été le lauréat du prix du jeune écrivain en 93. Je vais vous faire. Bref, ici, vraiment, il faut que je meuble hein, pour attendre l'arrivée de Michel Lussault. Je vous ai.
Non,
Voilà, vous appuyez là.
En fait, donc, je suis journaliste, j'écris des livres, ça me paraît suffisant.
Pas complètement quand même, parce qu'il faut qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on vient demander d'être là aussi, pour le cas où vous n'auriez pas lu tous ces romans, peut-être vous expliquer qu'il a notamment publié cet ouvrage qui s'appelle donc Un livre blanc, où il explorait en fait les zones laissées en blanc sur les cartes de la région parisienne pour aller voir ce que se trouvait derrière ces zones qui n'étaient pas décrites par les cartographes. Et il a d'ailleurs fondé un atelier de géographie parallèle avec les plasticiens Xavier Courtex et Xavier Bismuth, un collectif donc, qui s'intéresse particulièrement à ces zones blanches, donc ces lieux indéterminés en marge des villes, sur lesquels les cartes de l'IGN restent muettes. Et en fait, on l'a aussi invité parce que dans son dernier roman, La Conjuration, il poursuit aussi cette démarche d'exploration du rapport à l'espace urbain. Alors, que pouvez-vous ajouter à cette biographie ?
Mais quand vous me parliez de mes livres, vous m'expliquiez qu'ils n'étaient pas à la Bulac. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, moi je suis un peu l'exact contraire de Michel Lussault, c'est-à-dire le seul savoir que je produis est un savoir inutile. Je suis docteur en rien. Le discours que je peux mobiliser sur l'espace est un discours très solipsiste, en fait. C'est j'écoutais le titre des livres de Michel Lussault, c'est sur les sociétés, sur l'organisation de l'espace, habiter ensemble, tout ça, etc. Question que moi je me pose jamais, en fait. Les seules questions que je me pose, c'est sur les espaces que moi j'ai envie d'habiter, sur les espaces qui m'intéresse moi, donc j'ai une pratique presque, mais c'est même pas égoïste, c'est vraiment solipsiste de la ville. En fait, je fais comme si la ville avait été construite pour moi, et je cherche le meilleur endroit pour moi dans la ville. Mais en fait, pour moi, l'espace urbain est d'abord un espace sensible. C'est pas un espace en partage, en fait. La question de comme je m'intéresse aux espaces urbains, mes bouquins intriguent souvent les architectes ou les urbanistes, mais en fait c'est souvent un dialogue de sourds, parce qu'en fait moi la question de l'aménagement de l'espace urbain est une question que je me pose jamais. Je sais pas comment il faut aménager les villes. Je sais ce qui, moi, m'intrigue dans les villes. Si, je suis toujours d'ailleurs très étonné que ça... Enfin, c'est le fait que ça intéresse d'autres personnes que moi est un mystère toujours renouvelé, parce que j'ai vraiment l'impression de creuser un sillon extrêmement, extrêmement précis et un peu... En fait, c'est ça, j'utilise vraiment l'espace collectif comme si c'était un espace privé, en fait. Et c'est cette bascule-là qui m'intéresse, en fait. C'est l'extension du domaine du privé jusqu'aux limites de l'horizon, en fait. Cet exercice de avec les cartes, en fait, est un... C'était ça, en fait. C'était un espace de... C'était comme si je bougeais mes pions, comme si j'avais transformé la ville en une espèce de plateau de jeu sur lequel je bougeais mes pions. Mais en fait, il n'y a que moi qui joue. Je rencontre jamais personne. Donc voilà, en fait, je suis vraiment le contraire d'un scientifique ou d'un universitaire ou d'un chercheur, en fait. Et c'est tellement vrai que à chaque fois qu'on veut m'interroger sur le savoir, entre guillemets, que j'aurais amassé justement à avoir passé autant de temps dans ces espaces non cartographiés, précaires, etc., ce savoir me file entre les doigts comme du sable, parce que, évidemment, ces lieux-là sont des lieux extrêmement mouvants. Et souvent, en règle générale, ce que j'ai vécu, décrit, documenté jusqu'à l'absurde a déjà disparu, en fait. Donc c'est un savoir qui n'est pas mobilisable, ou que je peux mobiliser que sous l'angle de la nostalgie, qui n'est pas un sentiment très intéressant. C'est-à-dire, souvent, la seule chose que je peux faire, c'est dire, ben voilà, à cet endroit-là, autrefois, il y avait cet espace extrêmement bizarre où se retrouvaient tel type de personnages, mais... Alors, c'est tellement vrai que que ce que je me, enfin le, que le savoir que je constitue est totalement inutile, que il est devenu indifférencié, indifférenciable en tous les cas avec de la fiction. Le livre blanc, je l'ai écrit il y a presque 10 ans en fait, et mon dernier livre qui s'appelle La Conjuration est un peu la suite de ce livre blanc. Je raconte un petit peu ce que je viens de raconter, c'est-à-dire comment tous ces espaces que j'avais découverts ont disparu, ont été remplacés par autre chose, et comment comment est-ce que j'ai pu vivre tout ça. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, il y a des gens plus jeunes qui ont lu donc ce livre et un livre blanc, et qui sont venus me voir en me disant ils sont vachement bien vos deux romans. Je dis non, mais un livre blanc, c'est pas un roman en fait. Les cartes qui sont dans le livre blanc, c'est des vraies cartes. Ça existe vraiment. Et la plupart me croyaient pas. Ils pensaient que c'était de la fiction en fait, parce qu'ils avaient tous essayé de se rendre sur les lieux du livre, lieux qui évidemment n'existent plus. Donc en fait, la preuve étant dans le pudding, plus rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'on considère un livre blanc comme une fiction, à part mes protestations, mais ça n'intéresse personne. Donc en fait, objectivement, en 10 ans, c'est un livre qui est passé d'un récit documentaire que quand il est paru, on pouvait prendre ce livre et se rendre aux endroits du livre et voir passer par les... Parce que c'est un livre assez précis, donc je décris les issues par lesquelles on peut passer pour se rendre dans ces lieux qui souvent sont des lieux privatifs. Donc quand le livre est paru, on pouvait faire ça, ce qui a occasionné quelques problèmes légaux d'ailleurs. Les éditions, enfin certaines éditions ont été modifiées. Et aujourd'hui, c'est de la fiction, en 10 ans. Donc voilà, je produis du savoir qui se transforme sans effort en fiction. Donc c'est tout ça est un peu. Bonjour.
Voilà, et bonjour. Voilà Michel Lussault qui nous rejoint. Et donc j'en profite pour justement, oui, dire que c'est tout à fait en fait pour ça qu'on vous a invité, parce que c'était vraiment dans l'idée que, en fait, nous tous, comme des habitants, on est porteurs d'une certaine expérience du monde et de la ville, du coup d'un savoir géographique intime. Et l'écrivain, lui, a la chance. De pouvoir en laisser une trace qui peut être éventuellement utilisée par le géographe puisque le géographe lui aussi observe ces phénomènes et invente des concepts et les décrit. Donc en fait, ce sont deux formes d'écriture en fait pour habiter le monde. Et justement, vos ouvrages sont finalement des traces géographiques inventent en fait un espace et des concepts qui permettent en fait d'habiter le monde et dont le géographe peut s'emparer à son tour, ce qui me donne l'occasion de remercier Michel Lussault de nous avoir rejoints et de lui poser tout de suite, de but en blanc, la question de quel regard il porte en fait sur la géographie réelle ou imaginaire que Philippe Vasset décrit dans ses ouvrages.
Bonsoir à tous, pardonnez mon retard, mais je me suis perdu entre Lyon et Paris dans sans doute une des zones blanches que décrit souvent Philippe Vasset, bien qu'il soit pour l'instant en général circonscrit à la mégapole parisienne. Il ne s'est jamais encore risqué dans ces zones où tout s'évapore, vous savez, autour de Le Creusot, où les TGV s'arrêtent en pleine campagne sans trop savoir pourquoi, donc ce qui me vaut cette demi-heure de retard. Pour essayer de répondre à votre question, peut-être sans fermer la discussion, ce qui me frappe et ce qui m'a donné envie de discuter une nouvelle fois avec Philippe Vasset, c'est que son travail d'écrivain se situe peut-être véritablement au plus près de ce que, par ailleurs, des géographes académiques pourraient vouloir décrire de l'urbanisation contemporaine. C'est-à-dire, contrairement à certains écrivains qui prennent une certaine licence avec ce que j'appellerais les observables, les données de l'observation géographique, c'est-à-dire celles que les géographes mettent en œuvre pour tenter de rendre intelligibles les espaces de vie des humains, puisque c'est cela leur travail. Donc pour cela, ils observent. les espaces de vie, ils observent la manière dont les êtres humains habitent ces espaces de vie qui les habitent d'ailleurs aussi, et ces espaces de vie qu'ils construisent. Donc un certain nombre d'auteurs prennent une certaine licence littéraire ou poétique avec ces données de l'observation. Pas tous, il y a des grands précédents. Georges Perec, bien entendu, qui lui a été au plus près de ce que l'on pouvait observer. Rappelons-nous même ces tentatives d'épuisement d'un lieu parisien, c'est-à-dire cette idée un peu folle, un peu insensée et en même temps tout à fait enthousiasmante d'observer un lieu et de faire en quelque sorte entrer dans l'observation tout ce qui pouvait être observé, de la trace la plus infime à la chose la plus importante, procédé que Perec finalement a établi comme une des clés d'écriture de son œuvre et sans doute aussi pour le lecteur comme une clé de lecture de son œuvre, que ce soit son œuvre romanesque ou ses écrits plus difficilement classables comme ce Tentative d'épuisement ou comme ce livre absolument extraordinaire, je pense que Philippe Vasset sera d'accord, qui est Espèce d'espace, qui est un livre total, manifeste. Dans une certaine mesure, je crois qu'on fait de la géographie pour se confronter à ce livre-là et tenter d'écrire quelque chose qui y réponde sans pouvoir y parvenir, en ayant dès le départ le sentiment que cette quête sera vaine. Mais il y a là quelque chose de très fort. Donc Perec, lui, s'est colté au plus près de l'observable géographique. Dans un autre registre totalement, Julien Gracq, autre grande figure, a été lui aussi très loin dans la volonté de coller au plus près de l'observation, mais peut-être là, à la différence de Perec, si l'on se souvient du très grand texte qu'est La forme d'une ville, qui s'ouvre sur la phrase célèbre de Baudelaire, hein, que l'on connaît bien. Donc la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Donc Gracq y introduit une donnée un peu supplémentaire par rapport à Perec, c'est ce que j'appellerais la donnée de subjectivation, c'est-à-dire que ce que l'on voit de la ville à travers l'écriture de Julien Gracq, c'est moins peut-être la ville telle que l'observe Perec avec sa tentative d'épuiser que la relation subjective sensible, sensuelle et en même temps très intelligente, gorgée de souvenirs, bien sûr, souvenirs d'enfance, mais aussi gorgée de culture et du souvenir des voyages que Gracq n'a pas arrêté de faire à travers le monde. Donc c'est là, ce qui est restitué, c'est plutôt une relation sensible et intellectuelle. Et puis on pourrait comme ça multiplier les exemples. Et ce qui me frappe, moi, avec Philippe Vasset, c'est qu'il se situerait dans une certaine mesure plutôt plus près de Perec que de Gracq, c'est-à-dire plus près de quelque chose qui donne à la restitution de l'observation un caractère presque, enfin pas presque, un caractère objectif, c'est-à-dire qu'il nous montre les chemins d'objectivation, mais aussi, comme dirait Bruno Latour, quelques chemins d'objection, c'est-à-dire le fait qu'en objectivement, il nous montre aussi ce que l'on pourrait vouloir lui opposer en matière de lecture de l'urbain. Quand il insiste sur le blanc, on pourrait lui dire « ouais, bon, enfin, c'est bien facile d'insister sur le blanc, sur le vide, mais quand même, l'urbain, c'est du tangible, c'est du solide, oui, il y a des marges, des interstices, mais il y a aussi du plein, du dur, du solide. » Donc, il objective véritablement, il nous présente ça comme un objet, mais en même temps, il y a chez lui quelque chose qui, moi, me trouble beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles donc je voulais discuter avec lui ou quelques autres, dont on avait pensé à Antonin Potocki, qui a un peu le même type de rapport au réel, c'est-à-dire quelque chose qui est très objectif et puis qui en même temps un moment se trouble. Il y a chez Philippe Vasset ce moment où petit à petit on n'est plus tout à fait sûr de ce que l'on lit et de ce que l'on découvre. Et où là, le géographe de métier commence à être un peu embarrassé et inquiet, c'est-à-dire que dans les premières pages, il s'y retrouve et se dit « Oh, ben, Philippe Vasset ferait un très bon géographe, ce qu'il est d'ailleurs, hein, oui, très bien, 18 sur 20, bonne donnée d'observation, ça me rappelle ce que j'ai vu moi-même. » Et puis, il y a un moment où on quitte ce sentiment de confort pour arriver vers quelque chose qui est à la fois une fantaisie. Le mot n'est pas péjoratif, hein, du tout pour moi, mais en même temps qui, à mon sens, nous renvoie à une réalité urbaine que peut-être les géographes du métier ont du mal à exprimer. C'est-à-dire justement, cette réalité urbaine, ça serait celle de ce que j'appelle les points limites et les expériences limites de l'urbain contemporain. Ce point de vue-là, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le dernier livre de Philippe Basset, La Conjuration, que je conseille vraiment à tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ce qui serait un scandale et un drame personnel pour eux, ce que je trouve très intéressant, c'est cette fin du livre où, après avoir documenté de façon très objective, à travers des fiches même, un certain nombre de lieux parisiens pour lesquels on pouvait penser qu'il y avait une bonne possibilité d'en faire des lieux d'un nouveau culte secret, petit à petit, le livre bifurque vers quelque chose d'assez différent qui est une sorte de grammaire de la disparition, en fait. Quelque chose qui propose finalement à ces personnages, et d'ailleurs au narrateur, mais à tous ceux qui vont le suivre, dans une sorte de cohorte assez invraisemblable, de partir de l'idée que ce qu'ils doivent poursuivre, c'est de disparaître. C'est de devenir absent aux autres, et dans une certaine mesure absent à eux-mêmes en tant qu'ils avaient été définis comme individus dotés d'un état civil, etc., d'une raison sociale, à travers un certain type d'expérience urbaine. Et en même temps, cette expérience urbaine, elle est parfaitement vraisemblable, parfaitement documenté, parfaitement réaliste, et on a envie de la tester immédiatement. Et il y a donc chez Philippe Basset, je finis de répondre à votre question, excusez-moi, je suis en retard et bavard, mais il y a donc chez Philippe Basset ce mouvement, moi, qui m'intéresse en tant que géographe, écrivant des livres de géographie, mais en ayant, pour ceux qui n'ont pas lu mes livres, et je ne leur en voudrais pas, toujours eu la volonté aussi d'écrire des livres un peu troubles, c'est-à-dire en essayant de mélanger un peu les registres, c'est-à-dire en développant parfois des styles qui ne sont pas ceux des sciences sociales, c'est-à-dire avec des tentatives de trouver d'autres formes de narration ou de description. Il y a donc chez Philippe Basset quelque chose qui est pour moi tout à fait intéressant, c'est-à-dire un mouvement qui va de l'objectivation à un point limite où l'on passe à quelque chose qui renvoie cette fois-ci à l'expression d'une expérience subjective très forte et qui pourrait être tout à fait une fantaisie romanesque, n'en renvoie pas moins à des questions très existentielles sur ce qu'est habiter aujourd'hui les grandes métropoles. Parce que je pense qu'aujourd'hui, habiter une grande métropole, c'est nécessairement, à un moment ou à un autre, accepter de se confronter à l'expérience du vide, dans ce qu'elle a de perturbant, hein, et là le géographe reprend le dessus, regardez à quel point pour l'urbanisme contemporain, le vide urbain est problématique, à quel point toute l'activité urbanistique, l'activité des politiques publiques consiste à remplir, à combler. Alors là nous sommes dans un quartier, si je puis dire, où il n'y a pas forcément besoin d'en parler beaucoup plus, encore que c'est à partir de ce quartier-là que le personnage de Philippe Basset dans la Conjuration va commencer à vouloir disparaître. Hein. Nous sommes très près d'ici, hein, dans la première expérience de disparition. Donc même dans ce quartier où on essayait de remplir le moindre tènement, on lui affecte une construction, on y met un immeuble, des passerelles au cas où, hein, il faudrait passer au-dessus d'une zone un peu difficile. Même dans ce quartier-là, on peut néanmoins trouver des vides, et pourtant l'urbanisme est absolument hanté par la question du vide. Donc ça, c'est la première chose qu'on trouve chez Philippe Basset, cette sorte de confrontation à la question du vide. Et donc, du coup, ça nous fait passer aussi de l'objectivation de ce qu'est être un humain dans la grande métropole, affirmant son état civil, affirmant sa raison sociale, cherchant son rôle. C'est le début de la Conjuration et des d'autres livres, d'ailleurs, presque tous. Hein. Il y a toujours un personnage qui d'abord nous raconte ce qu'a été son rôle social, et puis petit à petit, toujours aussi, on va finir par croire que c'est une obsession, cher Philippe, ce personnage qui habite dans un plein de l'urbain et qui affirme son rôle social, va se retirer dans une sorte de vide et va devenir évanescent. Et je trouve aussi que c'est une expérience à laquelle nous ne devons pas vouloir échapper en tant que humain sur la Terre, c'est-à-dire qu'en est-il aussi de notre possibilité de disparaître aux yeux des autres, de devenir tellement anonyme, hein, rappelez-vous, Zimmel dit « la grande ville, c'est l'anonymat urbain », mais de devenir tellement anonyme qu'on n'existe plus, et pas forcément d'ailleurs là pour le pire, peut-être au contraire pour le meilleur. Voilà. Donc je trouve qu'il y a chez lui quelque chose qui en fait un très très bon géographe. J'en voudrais bien comme collègue. Je pense qu'il a une très solide culture géographique. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Mais en même temps, il y a chez lui quelque chose qui renvoie à des expériences que finalement le géographe de métier enrage de ne pas pouvoir restituer aussi bien que lui, d'où la volonté d'en débattre.
Le fistre. En préambule, ce qu'il faut que je dise, c'est que l'écrivain s'exprime moins clairement et avec moins de rapidité que le chercheur et le professeur. Donc il faut rester avec mon phrasé parfois un peu heurté. Je cherche ce que je vais dire en direct. Je crois que la réponse à la question que me pose Michel Lussault est dans sa question, en fait. C'est-à-dire que, comme vous dites très bien, le géographe observe pour rendre intelligible l'espace aux hommes, et pour rendre intelligible l'espace que les hommes ont en partage. Et c'est vrai que moi, l'intelligibilité n'est pas vraiment ma question et pas vraiment mon propos, en fait. J'observe pour rendre obscur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'envisage mes livres, d'abord pour moi et je l'espère pour le lecteur, mais ça relève plus du pari, comme des plateformes d'expérience, en fait. C'est-à-dire que les observations que j'y consigne me servent à vivre des choses et servent, j'espère, au lecteur, c'est les indices que vous laissiez un petit peu, peut-être aussi, eux aussi à vivre des choses. Donc l'accumulation d'observations me sert à ça, en fait, à créer de l'expérience, à créer peut-être, je l'espère, du sensible, mais pas à rendre intelligible. Enfin, en tous les... Peut-être par accident, mais en tout cas, ça, c'est pas mon propos. Moi, ce qui m'intéresse dans l'observation, dans la consignation, dans le fait de repasser obsessionnellement aux mêmes endroits, de chercher des lieux, de creuser des lieux, d'enquêter, parce que c'est souvent comme ça que je décris mon travail, par l'enquête. Ça m'intéresse pour arriver à un moment, à un endroit qui soit obscur, qui soit inintelligible, qui soit que je n'arrive pas à englober. C'est ça que je cherche, en fait. Et c'est l'enquête, l'accumulation d'observations est finalement un travail fictionnel, en fait. C'est en creusant le plus possible une réalité, en accumulant les informations, que en l'occurrence l'espace, mais ça marche sur d'autres types de réalités, même si c'est surtout l'espace qui m'intéresse, pour des raisons qui sont pas claires. C'est d'ailleurs pour ça que je continue à écrire des livres. Si je savais où j'allais, j'arrêterais d'en écrire. Voilà, ces plateformes d'expérience, mes livres se présentent toujours comme je sais pas, un espèce de schéma, une mécanique que j'ai envie d'expérimenter, mais je sais pas exactement où elle va. Je sais en revanche que elle est, que son matériau sera réel, que le point que je cherche, en revanche, n'a pas forcément besoin de l'être, mais il faut qu'il soit sensible. Je pense que c'est quelque part dans cette distinction entre réel et sensible que se place ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si c'est une réponse très claire.
C'est assez clair et il y a quelque chose qui est frappant aussi, et je pense d'ailleurs que c'est de fait quelque chose qui heureusement sépare les géographes ou les spécialistes de sciences sociales des écrivains. Je dis heureusement parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de division du travail, autrement tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir devenir écrivain se retrouveraient je ne sais trop à quoi faire. Donc il faut quand même que l'on arrive à répartir les tâches. Il y a quelque chose qui est frappant dans votre travail et qui est sans doute un élément donc de différenciation. C'est quelque chose que l'on retrouve dans une des pages de la fin de la conjuration, donc quand le narrateur finit par créer une sorte de cercle des conjurés qui vise finalement à la disparition totale de l'écran radar de la vie urbaine contemporaine, mais une disparition qui ne procède pas d'un suicide collectif, c'est pas le temple solaire ou d'une réclusion dans une terre lointaine, mais au contraire une disparition par recherche de l'évanescence tout en restant totalement présent dans l'espace urbain ici et maintenant. C'est-à-dire quelque chose d'apparemment paradoxal, c'est-à-dire comment s'effacer tout en étant complètement là, en jouant des creux, des entrelacs, des délaissés, mais aussi en travaillant en quelque sorte son invisibilité. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Et donc le personnage dit à un moment, relégué dans l'ombre, il, le conjuré, c'est-à-dire ceux qui vont chercher à faire cela, il s'y trouvera comme un nageur dans le courant et ira, suivant les sinuosités de l'obscurité, plonger dans des tunnels, chuter dans des puits et surnager dans des bassins. Et c'est là où la phrase m'intéresse. La ville cessera pour lui d'être un espace pour devenir milieu, continuum ouvert à la libre circulation. Et je pense que ce qui est intéressant là, c'est que pour un géographe comme moi, la ville, l'objet urbain, ne peut pas ne pas être un espace. C'est-à-dire, je dois, pour faire mon travail, objectiver, moi, l'espace urbain et considérer la ville comme un espace où des acteurs sociaux, des individus, sont à l'épreuve de cet espace. Donc, en quelque sorte, je dois durcir les choses de manière à ce que cet espace tienne, soit solide, descriptible, objectivable, pensable selon... Pourquoi pas des règles, des principes de régularité qu'on doit presque pouvoir énoncer des concepts et formuler des théories qui rendent compte de tout espace. C'est cela le travail de la science sociale. C'est finalement, là c'est peut-être mon vieux côté d'inspiration deleuzienne, quand Deleuze et Guattari disent la philosophie ça sert d'abord à produire des concepts, je serais tenté de dire que les sciences sociales servent à produire des concepts qui essaient de rendre compte de manière constante d'un certain nombre de phénomènes sociaux et pour les géographes de la façon dont les êtres humains construisent leurs espaces de vie et habitent ces espaces de vie. Donc il y a cela qui est très important. Et chez vous, ce qui devient justement important, c'est l'inverse. C'est le moment où... C'est pour ça que je pense que tous vos livres sont vraiment charpentés comme ça, c'est-à-dire on part de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de ne pas dire que ça n'existe pas. Il y a la volonté d'en partir et de trouver la situation d'expérience où en quelque sorte cet espace va s'alléger, disparaître, devenir transparent et devenir un milieu. Et je trouve que là, si vous avez bien noté la phrase que je viens de lire, on dit « comme un nageur ». C'est-à-dire la ville devient comme l'onde. C'est-à-dire comme cette... Vous savez, quand on nage, comme cette chose très étrange qu'est l'eau dans laquelle on est en train de nager, à la fois très présente et puis très, très fluide, insaisissable. On glisse, elle nous glisse dessus, on n'entend pas tout à fait, on ne voit pas tout à fait, mais on voit et on entend quand même. Et il y a cette sorte d'effet de milieu là qui est très fort. Et je voulais donc poser cette question à Philippe. Qu'en est-il de ce passage de l'espace au milieu, justement? Est-ce que ce n'est pas là où se situe la clé de l'expérience?
Probablement. Alors l'énorme avantage de l'écrivain, c'est qu'il n'a pas à se poser ces questions-là
et
sur ce qu'il fait. Mais oui, probablement. En vous écoutant, je me disais qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'était la ville constamment renouvelée, en fait. Donc la ville liquide quelque part. Et je me disais que la ville qui bouge autour de vous, en fait, qui change, qui est toujours différente. Et je me disais que l'expérience la plus proche de ça, c'est la ville dans le brouillard, où on est véritablement dans un liquide, puisque la vaporisation des gouttes fait qu'on est dans l'eau. Et les nappes de brouillard dérivant, changeant, non seulement masquent les contours et les transforment, mais changent elles-mêmes. Donc on est vraiment, c'est probablement l'expérience qui est la plus proche d'une vie liquide. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, parce que vous parliez de je vais peut-être un petit peu plus loin que ce que vous disiez, mais vous parliez de capacité des sciences sociales de prédire, en fait, ou tout du moins d'analyser, d'observer des régularités. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, avant que vous arriviez, je disais que je ne produisais que du savoir inutile et inutilisable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'irrégularité. Et c'est tellement vrai que la seule fois où j'ai voulu utiliser des, entre guillemets, vraies méthodes de géographe, que par ailleurs je ne suis pas, j'ai fait des études de géographie qui ont assez rapidement avorté, je n'étais pas un très bon étudiant, la seule fois où j'ai voulu utiliser vraiment un modèle de géographie, c'est quand j'ai écrit un livre blanc, et donc qui est cette recension que j'aurais voulu méthodique, en fait, des zones laissées blanches sur les cartes IGN, et je voulais que ce soit une typologie, en fait. Et assez rapidement, donc je voulais, en fait, dégager des régularités. Et assez rapidement, le livre s'est écrit à partir de cas uniques, en fait. Je ne pouvais absolument pas généraliser chacune de mes expériences. Et chacun des lieux m'intéressait parce qu'il était unique. Et ce que je creusais, c'était uniquement... c'était spécialement cette unicité. Je ne sais pas... On dit unicité ? Ouais, merci. C'était ce que ces lieux avaient de plus particulier et de plus irréductible, en fait. Et c'était ça qui m'intéressait. Et donc, le livre blanc qui aurait dû être un livre de géographie, quand je l'ai décrit à mon éditeur, d'ailleurs, je lui ai décrit comme ça, je lui ai dit que ça devait être un livre de géographie. À la fin, c'est un livre, non seulement c'est pas un livre de géographie, mais c'est un livre qui, je pense, pour un chercheur sur l'espace, est assez inutilisable, en fait.
Il faudra qu'on en discute. Je n'en suis pas sûr. Moi, je trouve que...
Parce que ce que je disais avant que vous arriviez, c'est qu'en fait, tous les lieux que je décris ont disparu, en fait. Donc, en fait, le semblant de savoir qu'il peut y avoir dans ce livre-là a fui. Il y a un seul lieu qui existe encore. Je ne sais pas pour combien de temps. Tous les détails les plus transitoires sont évidemment ceux qui m'ont le plus intéressé, donc c'est ceux sur lesquels il y a le plus de contenu, en fait, dans ce livre-là, sont les choses qui ont disparu le plus vite.
On va réserver la question de l'utilité pour les géographes ou pour les sciences sociales des œuvres littéraires. Encore que, effectivement, ça soit un mot un peu horrible que d'aborder la problématique des œuvres à travers l'utilité. Parce que,
non,
parce
mais,
que,
c'est...
mais je pense néanmoins qu'il y a quelque chose d'important dans la confrontation des spécialistes de sciences sociales aux écrits romanesque, poétique, de fiction, enfin comme on voudra les qualifier, parce que vos livres sont pas forcément aisément qualifiables, enfin même si je crois que ce sont des romans.
Un livre blanc, il y a écrit récit.
Récit, là il y a écrit.
Là c'est un roman.
Récit avec carte.
Un livre blanc est accompagné d'un site. Expérimental, donc ça renforce le côté un peu étrange de ce livre, puisqu'il y a un site web sur lequel on documente justement des espaces blancs. Ce que je crois, c'est que l'intérêt pour les œuvres de fiction, ça vaudrait d'ailleurs aussi pour les œuvres cinématographiques ou les œuvres de théâtre ou l'art contemporain, enfin personnellement, je passe beaucoup de temps maintenant dans mon métier à essayer de trouver les membranes perméables, si je puis dire, qui peuvent exister entre les sciences sociales et les activités créatrices littéraires, théâtrales, cinématographiques, voire musicales ou en matière d'art contemporain, parce que c'est ce qui, pour moi, apporte aujourd'hui le plus de piquant et le plus de sel au travail que j'essaye de mener. Et ce, pour au moins deux raisons, peut-être plus, mais au moins deux raisons. Il y a une première... enfin non, trois raisons. Il y a une première raison qui est que se poser, quand on lit un livre, prenons cela, puisque nous sommes dans une bibliothèque, quand on lit un livre, se poser la question de ce que l'auteur rend visible ou pas, c'est-à-dire de ce que j'appellerais la démarche ophtalmique d'un auteur, c'est-à-dire ce qu'il voit et ne voit pas, ce qu'il rend visible et rend invisible, c'est-à-dire ce qu'il laisse passer au crible de son observation sensible, parce que je ne connais pas personnellement d'auteurs, même s'ils disent le contraire quand ils sont interviewés parfois par les gazettes, je ne connais pratiquement pas d'auteurs qui travaillent hors sol.
C'est-à-dire
qu'ils seraient, vous savez, dans leur chaumière ou dans leur bureau, coupés du monde, sans jamais regarder quoi que ce soit. La plupart des écrivains que je rencontre, alors c'est peut-être parce que je rencontre que ces écrivains-là, mais j'ai la chance à Lyon de travailler avec la Villa Gilet, donc qui est un grand centre d'écriture contemporaine, et donc je rencontre beaucoup d'écrivains, je fais des ateliers entre mes étudiants et ces écrivains, et tous ceux que je rencontre, français ou pas, à un moment ou un autre, ils sont dans ce rapport d'observation, de mise en visibilité. C'est très fort, par exemple, peut-être moins chez certains auteurs français, de ce point de vue-là, Philippe Vasseur, un peu à part, avec quelques autres, on pourrait penser à François Rollin, François Bon, etc., des gens avec qui vous partagez peut-être une certaine sensibilité. Hein, quand on lit le bouquin de François Bon qui s'appelle « Paysage faire », hein, c'est-à-dire ce livre que François Bon a écrit pendant 18 mois en allant chaque semaine de Paris à Metz en train et en décrivant ce qu'il voit dans « Paysage faire hein, », dans ce trajet et en consolidant petit à petit ses données de l'expérience, il y a quelque chose de très... très fort dans le rapport au visible. C'est peut-être moins vrai dans certains autres romans français, mais par exemple, quand on rencontre des auteurs américains, du grand roman américain, un auteur américain se confrontera toujours à ce qu'on appelle le Great American Novel, hein, c'est-à-dire au grand roman américain. Ils sont tous dans l'observation. C'est-à-dire il y a une dimension, justement, ophtalmique d'observation qui est très forte. Donc, il y a une première chose qui est intéressante, je trouve, dans la confrontation avec les œuvres littéraires, c'est en fait, qu'est-ce qu'il voit ? Comment voit-il ? Qu'est-ce qu'il voit ? Parce que ça, c'est une question que nous, on a à se poser dans notre métier. Puisque pour une science sociale empirique, même à visée théorique comme celle que je fais, puisque j'adore créer des mots, des concepts, essayer de faire des théories, c'est mon dada, voilà, c'est comme ça, mais à un moment, on part toujours de l'empirie. C'est la différence peut-être entre la philosophie et les sciences sociales. Donc moi, je pars toujours de « qu'est-ce que je vois ?» Qu'est-ce que je ne vois pas ? Pourquoi je ne vois pas un certain nombre de choses ? Et en lisant Philippe Vassé et d'autres, je me dis, tiens, mais il a vu ça. C'est marrant, il a vu ça, moi je ne l'ai pas vu. Ou au contraire, ah ouais, ça je l'ai vu aussi. Ou des fois, ah non, moi je l'ai mieux vu que lui. Rarement, hein, mais de temps en temps quand même. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il voit ? Et vous savez, ça peut vous paraître un peu abstrait ou méthodique ou méthodologique, mais c'est très important quand on fait des sciences sociales que la question de la méthode. Il n'y a pas de sciences sociales si vous n'avez pas de méthode. C'est impossible. Si vous n'avez pas de méthode des sciences sociales, vous faites autre chose. Vous faites de la fiction, de la non-fiction, vous faites... Mais vous, finalement, l'affiliation aux sciences sociales, c'est souvent beaucoup plus une question de méthode qu'une question de concept, d'ailleurs. Curieusement. C'est là où on signe son appartenance. D'ailleurs, Philippe Vassé le sait bien. S'il voulait produire un article scientifique à partir de ce qu'il connaît de l'urbain, il pourrait le faire. Il y a là-dedans beaucoup plus que dans certains articles académiques. Mais ce qui lui manquerait, c'est c'est, encore qu'il saurait le faire aussi, hein, c'est le rattachement à une méthode standard. C'est le passage obligé par... Ouais. Mais ça, il sait le faire dans son métier, par ailleurs, hein, parce qu'il a aussi des exigences de méthode dans son métier. Je le sais, il m'en a parlé. Donc, il y a la question de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas. Comment je rends visible ou sensible des choses. C'est une question quand même toujours très, très compliquée. Hein. Moi, j'avais rencontré des cinéastes ou des documentaristes souvent qui disent, mais voilà, pour moi, la question importante, c'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Comment je saisis ou je ne saisis pas. C'est vraiment fort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à l'autre bout, puis ensuite je reviendrai peut-être au thème du jour. Le troisième point, c'est quels sont ses procédés d'écriture. C'est-à-dire comment il met en forme, en scène, en tension, comment il fait apparaître justement ce qu'il a observé, à travers quel procédé d'écriture. Et ça, je trouve que c'est important parce que je fais partie des quinquagénaires bien tassés maintenant qui sont issus d'une génération qui se sont accoutumés aux sciences sociales avec une génération de grands anciens. Michel Foucault, au premier chef, mais quelques autres... qui avait un rapport à l'écriture, qui était un rapport non pas résiduel, hein, anecdotique, marginal, mais pour lesquels faire de la philosophie ou des sciences sociales, c'était aussi écrire. C'est-à-dire, il y avait dans leurs livres des projets qui étaient des projets intellectuels, mais il y avait aussi des projets d'écriture. Même s'ils ne le disaient pas, c'était flagrant, tous les grands anthropologues, enfin Lévi-Strauss au premier chef d'ailleurs, aujourd'hui vient de disparaître Jacques Le Goff, enfin c'est pareil, Georges Duby, les grands historiens des sensibilités, il y avait des projets d'écriture. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui, après 30 ans où les sciences sociales ont produit plutôt du style académique un peu neutre, un peu froid, moi je fais partie de ceux qui militent pour que les sciences sociales redeviennent aussi des projets d'écriture. Et pour redevenir des projets d'écriture, on ne peut pas ne pas se confronter aux autres univers d'écriture et se placer par rapport à des styles, réfléchir à ces styles et voir ce que ces styles apportent en termes d'appréhension des réalités ou des fantaisies, peu importe, mais ce que ces styles nous permettent de coucher sur le papier et qu'est-ce qu'ils nous permettent de créer comme monde de signification. Donc en gros, le style, c'est une machine sémiotique, hein. Ça produit du sens. Et je pense que les sciences sociales ne peuvent pas s'émanciper de la question du style. Si elles le font, elles ont tort et elles perdent une partie de ce qui fait peut-être leur intérêt. Donc voilà, ça peut vous sembler assez abstrait, mais pour moi, ça ne l'est pas. Ça veut dire que quand j'écris un texte ou quand j'écris un livre, je place la question du style sur le dessus de la pile, quoi. C'est pas quelque chose qui vient après, quand on a tout réglé. On se dit, tiens, on va peut-être essayer de voir si les phrases sont correctes. Non, il y a vraiment une manière d'essayer de trouver un style particulier. Puis la troisième chose qui me paraît fondamentale, c'est en fait qu'on peut faire l'hypothèse qu'une des grandes forces des œuvres de fiction, parce que justement elles ont cette sorte d'allègement du côté des méthodes de certification et de preuve, parce que en fait ça n'est pas qu'elles n'ont pas de méthode, mais c'est que la fiction n'a pas besoin d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. C'est ce que vous avez dit plus ou moins.
C'est pas ce que j'ai dit.
Alors en tout cas, moi je trouve que c'est une des grands intérêts de la fiction, c'est qu'on n'a pas besoin d'apporter la certification. Ça ne veut pas dire que ce qu'on écrit n'est pas observé et n'a pas de réalité, mais ça veut dire qu'à la limite on peut se dédouaner de ça. Alors que si j'écris le même livre, enfin dans la première partie, sur des zones laissées en creux ou sur zones blanches, en tant que chercheur de sciences sociales, je vais avoir à certifier d'une manière précise ce que j'apporte au lecteur. D'ailleurs, dans zone blanche, c'est assez ambigu, hein, ce registre-là. Et je trouve donc que grâce à cela, les œuvres de fiction peuvent accéder à l'expérience humaine, et là l'expérience de l'habitation, hein, peuvent accéder d'une manière plus incisive que les sciences sociales. Or, pour les sciences sociales, ce qui est très compliqué à comprendre, c'est l'expérience humaine. C'est le plus difficile. c'est pas tellement la description extérieure de cette expérience. Parce que ça, on y arrive assez bien, il suffit d'observer. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre la relation sensible et subjective, la dimension sensible et subjective de cette expérience. Ce qui est difficile à comprendre, c'est l'appréhension par un individu dans sa globalité d'individu subjectif d'une expérience quelconque. Et là, évidemment, on a quelque chose de très fort dans les œuvres de fiction qui, pour moi, je n'hésite pas à le dire, peuvent parfois servir quasiment de matériaux de laboratoire.
Alors, il y a énormément de choses dans ce que vous dites, donc je peux pas réagir à tout, si ce n'est à un point en particulier, c'est-à-dire quand vous dites que pour vous la question du style, vous posez la question du style, vous faites un peu plus que la poser. Moi, j'ai pas lu tous vos livres, mais j'en ai lu pas mal. C'est assez sidérant. Enfin, la question de l'écriture est clairement au centre. Et ce qui fait que d'ailleurs que c'est ça peut être consacré à des questions théoriques assez arides. Moi, je les ai lues très rapidement. Donc c'est, je pense que vous faites un peu plus que vous la posez. Mais pour venir à cette question de l'expérience humaine, du matériau de laboratoire et de la preuve. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire, c'est vrai que la fiction s'abstrait de la charge de la preuve, que c'est une de ses définitions. Mais, moi, personnellement, par exemple, j'essaie d'écrire des livres qui pourraient répondre à la charge de la preuve. C'est une question qui m'intéresse. Je trouve... Alors, je vais parler un peu comme un écrivain et je m'en excuse, mais pendant, on va dire, 10-15 ans, un des genres qui a eu le plus de succès en France, c'est ce qu'on appelait l'autofiction. C'est-à-dire, en fait, les gens inventaient leur vie et poussaient au maximum, justement, cette possibilité de suspendre la charge de la preuve. Et ils parlaient d'eux en inventant des choses et la question de savoir si ce qu'il disait était vrai ou pas était, n'avait aucun intérêt, était même considéré comme obscène. C'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans les débats autour du livre d'Édouard Louis. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Je comprends très bien le propos théorique de ça, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on n'a pas à opposer à un écrivain, une œuvre de fiction et pas forcément un essai ou un livre scientifique. On n'a pas à opposer systématiquement le réel à l'écrivain. Moi, ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de pour moi et éventuellement pour les lecteurs, mais c'est vrai que c'est d'abord pour moi, j'essaie de créer des plateformes d'expérience. Et ces plateformes d'expérience, elles n'existeront pas si tout ce dont je parle n'est pas vrai et peut pas être éprouvé. Et si le livre n'est pas la recension d'une expérience réelle et pas d'une expérience imaginée. Et c'est vrai que alors, en particulier dans Un livre blanc, mais dans La Conjuration aussi, j'essaye beaucoup de pousser au maximum la possible vérification par le lecteur de ce que je raconte, en fait. Et donc, c'est pour ça que en règle générale, tous les lieux que je décris sont des lieux précisément nommés, adressés, référencés, etc. Et mon fantasme, alors peut-être que c'est un fantasme, et peut-être que j'écris à partir de quelque chose qui n'est pas réalisable, mais c'est vraiment que le livre soit aussi une plateforme et la possibilité de vivre quelque chose, et pas seulement de lire, pour le lecteur. Donc, j'en arrive à la deuxième partie de la question avec laquelle je suis beaucoup plus mal à l'aise. C'est-à-dire que pour moi, construire ces moments, en fait, construire ces expériences, c'est une fin en soi. Ce qui est intéressant, c'est de les construire pour les vivre et pour les expérimenter. Et encore une fois, la question de l'intelligibilité et de la production d'un savoir m'intéresse beaucoup moins que la production d'un sensible. Et donc, c'est vrai, mais je pense que tous les gens qui écrivent des livres réagiraient de la même manière, c'est toujours un sujet de malaise d'être considéré un peu comme un producteur de données brutes, finalement, de choses qui vont pouvoir être objectivées ensuite. Alors, je pense que ça peut... C'est qui je suis pour dire ce qu'on va faire avec ce que je produis. C'est évidemment... tant mieux, si ça peut servir, tant mieux. Je pense que ça servira d'autant mieux si je ne suis pas là. C'est-à-dire que si je pense que ça servira d'autant mieux si ce savoir éventuel qui peut être créé à partir de ce que j'ai observé ou de ce que j'ai produit se fait non seulement sans moi, mais peut-être d'ailleurs contre moi. Je voilà.
Je réagis, après vous avez le droit de poser des questions, vous êtes chez vous, hein, donc quand même. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la preuve, ce que je voulais surtout dire, d'ailleurs, c'est pas tellement que vous n'êtes pas dans le registre de la documentation, hein, au contraire, il y a dans tous vos livres quelque chose qui est de l'ordre de la documentation et de la vérité vraie, hein, c'est-à-dire des choses qui sont... des choses vues. Même des livres qui apparaissent comme dérivant très, très vite vers une sorte de restitution d'une expérience individuelle très, très, très forte et presque onirique. C'est Carte muette, par exemple, qui pour moi est de cela. Donc... où finalement le livre, qui est d'ailleurs la juxtaposition de plusieurs types de textes, finit par nous faire rentrer dans la méditation d'un personnage coincé, en quelque sorte, dans une sorte de poste de contrôle. Mais même ce livre-là, au départ, il y a une documentation très véridique, enfin, oui. Très, très réaliste. Et dans Zone blanche, dans La Conjuration, en fait, dans La Conjuration, tous les lieux que vous citez, on peut y aller, quoi, en fait.
Hein. Absolument.
On sait qu'ils existent, y compris cet espace invraisemblable à la Défense de l'ancienne, enfin pas l'ancienne gare, ce qui aurait dû être une gare,
et ce qui n'a jamais existé.
C'est-à-dire il y a incontestablement une véracité. Ce que je voulais dire, c'est, et vous l'avez d'ailleurs bien identifié en vous disant finalement un peu à l'écart de ce qui peut être fait de la production de sens, hein, c'est que vous n'avez pas besoin de vous relier à une histoire conceptuelle. Vous n'avez pas besoin de certifier ces données d'observation par rapport à une longue chaîne de procédures méthodologiques. Vous n'avez pas besoin de dire « voilà comment j'ai observé ». Et parce que je me suis inspiré de monsieur Tartampion qui a observé comme ça un monsieur faisant la sieste un jour dans une salle de conférence. Donc voilà, il y a toute une série de choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Et cet allègement, c'est tant mieux pour vous, parce que c'est un poids qui est parfois un peu agaçant pour les spécialistes de sciences sociales. Donc ça, c'est ce que je voulais plutôt dire par la preuve. C'est-à-dire que votre niveau de réalisme est très fort. Je pense même que dans vos livres, il y a un côté réaliste qui est plus fort que dans certains livres de sciences sociales. Il y a un rapport à la réalité qui est plus premier, plus évident, parce que cette réalité, c'est votre matière.
Ben, en fait, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu un truisme, mais c'est très vrai. que le fantastique le plus débridé sortira toujours d'une documentation soignée, d'une observation extrêmement précise des choses, et que pour moi, le contre-modèle absolu, c'est ce qu'on appelle la science-fiction galactique, c'est-à-dire où tout est créé, en fait, et où finalement on s'ennuie à mourir parce que tout est créé, donc tout est en fait déjà banal. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de. Vous savez, c'est tout. Un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal, qui est l'heroic fantasy, où en fait tout est. Les villes ont beau avoir des noms avec des milliers de trémas partout, elles ressemblent à Clermont-Ferrand. Qui est une ville. Alors qu'il suffit de regarder Clermont-Ferrand pour voir à quel point c'est une ville incroyablement onirique. Et il suffit juste d'aller la regarder telle qu'elle est et pas de rajouter des vaisseaux spatiaux partout.
Ça, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, alors là, je comprends très bien votre embarras par rapport à ce que l'on peut faire de votre travail en matière d'intelligibilité des phénomènes urbains. Ça, je le comprends très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous demandera même pas votre avis. Hein, donc,
En fait, je le dis parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'on me le demande. Et ouais. Notamment de la part des urbanistes et des architectes. On me demande beaucoup... je suis beaucoup sollicité, en fait, par des urbanistes et des architectes pour je ne sais pas très bien quoi, en fait.
Mais moi, je sais quoi, parce que je vais me permettre de faire une interprétation à leur place.
Je vous en prie.
Je pense qu'il y a dans vos livres, en particulier dans La Conjuration, il y a quelque chose qui renvoie à une question fondamentale d'une partie des urbanistes et des architectes d'aujourd'hui, qui est quid de l'expérience humaine de lieux urbains de plus en plus standardisés, du fait même des impératifs de la production urbaine. Là encore, nous sommes dans un espace, assez emblématique de cela. Et c'est pas du tout un jugement péjoratif. Hein. Quand je dis, c'est pas la Bulac seulement, c'est l'ensemble de cette zone qui a commencé à se réurbaniser à partir de la BNF, hein, pour aller vite, et puis qui depuis connaît depuis maintenant une trentaine d'années un jet continu d'opérations. D'urbanisation très très forte, très lourde, avec des infrastructures massives, beaucoup d'investissements de la puissance publique, mais en d'autres lieux ça aurait été aussi des investissements de la puissance privée, peu importe. Et on a donc là une sorte de fragment de ville qui était un prototype de l'urbanisme standard contemporain. Standard ne veut pas dire forcément médiocre, hein. Et c'est vrai que cet urbanisme là produit en quelque sorte des formes relativement homogènes, et qu'il y a chez les urbanistes et les spécialistes de l'urbain aujourd'hui une vraie question sur la façon dont on pourrait essayer de chercher d'autres manières d'appréhender la vie urbaine et donc la construction des formes urbaines. Et moi, je comprends que vos livres soient fascinants pour les architectes et urbanistes, parce que vous ne mettez que des personnages qui sont en train de passer à travers. C'est-à-dire le début de la partie conjuration, hein. Donc je le répète, il y a d'abord jusqu'à la page 151 la description du travail du narrateur avec un comparse pour essayer de repérer des espaces où une nouvelle religion pourrait se développer. Alors ça paraît un peu gaguesque, mais en fait il y a des préoccupations mercantiles derrière ça, et donc le personnage veut sortir un peu d'un mauvais pas, il trouve quelqu'un qui a des envies de rentabilité rapide et immédiate, et qui se dit, il n'y a rien de tel que créer une religion pour se faire un maximum de pèse, quoi, en gros, hein, pour le divide. Mais on voudrait trouver quelque chose d'un peu nouveau. Donc il embauche le personnage pour cela, et donc le personnage va documenter des lieux où un nouveau culte pourrait s'épanouir et où ce lieu pourrait être un argument de vente, en quelque sorte, de la nouvelle religion, à la fois par la caractéristique du lieu qu'il proposerait aux adeptes et par le type d'expérience qu'il proposerait aussi aux adeptes. Hein,
ça, absolument.
Bon, ça va. Ouf. Et puis après, en rupture de ce partenaire, le personnage, après une expérience où il, très belle d'ailleurs, ou pas très loin d'ici, il passe une nuit entière à de dérives en quelque sorte.
Oui, mais de dérives à l'intérieur.
À l'intérieur des immeubles, à partir de leur extérieur, à partir de leur balcon en fait et de leur coursive. Donc cette fois-ci, un travail d'entrée anonyme dans les immeubles où il va se mêler à une fête d'anniversaire ou je ne sais plus. Il va rentrer d'abord avec des gens de ménage. Enfin, il va vous voyez, s'incruster, taper l'incruste et puis vivre et puis divaguer, rentrer dans les bureaux d'un immeuble de bureaux vidé le soir. Imaginez là à la Bulac, hein, on le voit bien rentrer, passer dans les rayons, rencontrer un gardien, commencer à échanger de manière improbable avec lui. Donc cette incrustation-là lui fait découvrir quelque chose. Et là, du coup, à partir de la page 153, 2, citation de Benoît de Nursy, « Le silence devra être absolu et on n'entendra aucun chuchotement ni aucune voix si ce n'est celle du lecteur. » Magnifique phrase, donc règle bénédictine. Et le personnage va créer finalement une sorte de dérive urbaine systématisée et petit à petit des gens vont l'accompagner. Et petit à petit, ils vont essayer de disparaître jusqu'à la toute fin. Allez maintenant, allez aussi loin qu'il est possible d'aller. L'espace n'est plus qu'offrande à vos pouvoirs. Hein, et le personnage arrive à faire de la ville un infini murmurant et la langue elle-même deviendra paysage. Donc une sorte de dissolution, en quelque sorte, dans un milieu. Et ce qui est fascinant, c'est que vous le faites à partir... Le début de cette deuxième partie, c'est une contemplation objective des immeubles et de leur intériorité, en quelque sorte. Donc, c'est presque une contemplation froide. Donc, on a un croquis presque d'architecte devant un immeuble et petit à petit, on fait ce que tout architecte, urbaniste ou géographe a envie de faire. C'est-à-dire, on rentre à l'intérieur et on se met à respirer l'immeuble, à le vivre, à le sentir... en fonction de ses temporalités propres, c'est-à-dire là où l'architecte et l'urbaniste ont tendance à dire bon bah voilà l'immeuble il est là, on s'en va, là le personnage s'installe, il y a une logique d'installation et je comprends que ça soit tentant parce que c'est ça l'énigme de la vie urbaine. Mais c'est ça l'énigme de l'habité pour un géographe, l'énigme de l'habité. Aujourd'hui, quand je parle de l'habitat, excusez-moi pour vous couper le sifflet, il faut se lever de bonne heure. Quand je parle de l'habitat, je dis en fait, de plus en plus, au départ, je disais l'être humain produit son habitat. Production, ça m'a agacé, je me suis dit, ça fait trop marxiste, c'est bien Marx, je l'ai lu, j'adore ça, mais bon. Donc après, j'ai dit l'homme construit son habitat. Bon, c'était pas mal la construction, mais... Et maintenant, je dis en fait... L'habitat humain, c'est une installation.
C'est-à-dire,
c'est l'art contemporain. Et dans l'installation, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qui est installé, ce qui installe et ce qui s'installe. Donc, votre livre, il est formidable pour ça parce qu'il nous montre ce qu'est un processus d'installation.
Mais alors. Je pense que la raison pour laquelle souvent moi j'ai du mal à comprendre l'intérêt que ça suscite, c'est parce que pour moi le problème de la construction et ou de l'aménagement de la ville est un problème que je me pose jamais en fait. Je me pose la question de ce qui est, mais pas de ce qui devrait être. Ce qui m'intéresse, c'est d'éprouver ce qui est, de longer infiniment un mur, mais pas d'imaginer ce que le mur devrait être. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que l'idée de l'habitat comme installation, parce que dans l'installation, il y a quand même l'installation, l'installation, le verbe s'installer produit l'installation, la combinaison des différents éléments qui va constituer l'habitat. Et moi, je pense que beaucoup de mes livres sont ne sont rien d'autre que des traces d'une tentative d'habiter certains lieux. Et que mon projet, c'est ça, en fait. C'est d'habiter certains lieux. Et du coup, je reviens dans une ellipse magnifique à Georges Perec, dont vous parliez au tout début. Pour moi, Espèce d'espace, qui est vraiment un livre... c'est plus qu'un livre important. C'est, moi, j'ai commencé à écrire quand j'ai lu Espèce d'espace, en fait. Mais il y a une raison à ça. Et dans Espèce d'espace, il y a un texte qui s'appelle L'inhabitable et qui est une longue recension de tout ce qui, selon Perec, ne peut pas être habité. Les villes-prisons, les villes dortoirs, mais aussi des aires trop petites, trop vastes. Je me souviens d'avoir lu ce texte avec une immense exaltation en me disant, mais en fait, c'est un texte programmatique parce que ce qui est intéressant, c'est d'habiter l'inhabitable et d'aller à ces endroits-là. D'aller à ces endroits-là que de se confronter à cette expérience-là, en fait. Et je pense que tout ce que j'ai pu faire après tient là-dedans, en fait. Et pourquoi est-ce que l'espèce d'espace, c'est un texte qui fait écrire, en fait? C'est parce que c'est probablement le seul texte... Quand on est intéressé par les problèmes d'espace et que par ailleurs on aime lire des livres et qu'on est intéressé par les questions de langage et d'expression, on est face à quelque chose d'irréconciliable qui est que toute la tradition, on va dire occidentale, de la littérature est une tradition de temps. Et que quand on s'intéresse à la littérature, on vous explique que la littérature est d'abord un art du temps. Et quand les questions de paysage, d'habitation, de circulation, de visible, de non visible, vous intéressent, vous êtes complètement un marginal dans l'histoire de la littérature telle qu'elle vous l'est présentée. Alors vous arrivez à attraper des choses, des traditions qui brusquement vont vous éclairer ou vont résonner de manière extrêmement profonde avec les questions qui vous habitent. Et puis arrive Espèce d'espace qui n'est qu'un livre produit, qu'un livre de littérature, et quelle littérature produit uniquement à partir d'interrogations sur l'espace. Et brusquement vous lisez ce livre qui n'est pas un livre de fiction, même s'il y a des fictions dedans. Vous vous dites, mais oui, en fait, c'est complètement possible d'écrire, de faire de la littérature en s'intéressant à la géographie, en s'intéressant à l'habitation, en s'intéressant à la circulation, en s'intéressant à la ville, etc. C'est possible. Et donc, voilà.
Ce que vous dites, là, on pourrait faire un parallèle d'ailleurs assez troublant. Hein, c'est que moi, je fais de la géographie et pas de l'histoire ou pas de la philosophie, alors que j'ai étudié un peu les trois parallèlement pendant un temps. Je fais de la géographie parce que je me suis trouvé, grâce à Perec et quelques autres, Espèce d'espace est publié quand j'avais 16 ans. Hein, donc, c'est un livre que je découvre assez tôt. Je me dis, mais c'est vrai que nous vivons spatialement tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas d'expérience plus immédiate que notre rapport à l'espace de vie. Exister, le verbe exister lui-même, d'ailleurs, étymologiquement, est assez trouble. Hein, existere, donc s'écarter à partir d'un point fixe. Hein. C'est quand même étonnant, quoi. On est dans quelque chose de très fondamental pour l'être humain, et pourtant les sciences sociales, la littérature ne parlent que de temps et de sujet. Et ça a été pour moi aussi très très décisif que de dire, mais non, on peut comprendre la société humaine à partir de la question spatiale. Et donc ça, vous voyez, ça au moins ça rassemble un écrivain de fiction et un géographe. J'aurais envie de vous poser quand même une question, si notre hôtesse me le permet. Est-ce que je peux lire une page? Ça vous gêne si je
Mais
lis...
pas du tout.
Parce que des fois, il y a des écrivains qui n'aiment pas qu'on lise leur...
Je préfère que ce soit vous plutôt que ce soit moi.
Texte,
je suis un assez
voilà,
mauvais
parce
lecteur.
Ils ont peur qu'on les assassine. Ou... Donc c'est le 14e chapitre ou paragraphe ou moment de la conjuration. Ce sont les deux dernières pages. Donc. Les conjurés sont dans la ville, comme dans un cloître, leur circulation est prière. La conjuration sera victorieuse quand l'espace urbain sera, pour ses adeptes, pure sensation. Quand les conjurés percevront les immeubles s'emplir, se vider et les rues se saturer de trafic. Quand ils écouteront l'air grésiller de messages électroniques et sentiront, comme s'il s'agissait d'une lumière naturelle, les plus infimes variations de l'éclairage urbain. Quand ils découvriront sur leur langue le goût du neuf et de l'abandonné. Quand ils entendront sonner les volumes et résonner les parois. Quand toute la ville, enfin, leur passera sur le corps. Alors ils parcourront les rues à peau découverte, s'incorporant à l'incessant brassage jusqu'à ce que ce soit leur voix qui crie avec les trains et grince avec les gonds. Jusqu'à ce que ce soit eux qui réclament, d'un timbre déformé par les traitements synthétiques, l'attention des voyageurs et disent les correspondants occupés, les factures à payer et les virages imminents. Énonçant les noms, les heures et les lieux, ils nimbront chaque individu d'un halo d'identité et, à la certitude de la présence, substitueront l'enivrante potentialité de la trace. Ils feront de la ville un infini murmurant et la langue elle-même deviendra paysage. Alors, on retrouve la trace, mais il y a quand même quelque chose là qui est un peu troublant, Philippe Vassé. Dites-moi. Et Dieu dans tout ça, non. Et quelque chose de troublant, c'est que pour le coup, on pourrait presque lire dans la conjuration, dans les 14 petits chapitres de la deuxième partie, quelque chose comme un manifeste. Pour le coup, je me suis demandé si alors que vous disiez tout à l'heure, moi je ne m'intéresse pas au pourquoi... Je ne m'intéresse pas trop à ce qui devrait être fait, je ne m'intéresse pas trop à ce qu'on devrait pouvoir penser d'eux. Là, il y a quand même quelque chose de plus fort que dans certains autres, peut-être pas dans Zone Blanche encore, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du manifeste de l'expérience urbaine.
Alors, je vais m'en tirer pas très courageusement par une pirouette, c'est-à-dire que le modèle avoué d'ailleurs de ce texte qui en effet a un peu des allures de manifeste, c'est pas vraiment le manifeste, c'est la règle monastique.
Ah oui, c'est un bon
mot. Voilà. Or, la règle monastique est quand même c'est un texte très particulier. J'ai lu presque, pour écrire ce livre, j'ai lu presque toutes celles qui existent, et en fait, il n'en existe pas beaucoup qui ont été conservées. Les règles monastiques sont essentiellement des textes sur l'usage, en fait, sur l'expérience, plus que sur ce qu'il convient de faire ou non. Ce n'est pas des textes qui disent ce qui est ou ce qui n'est pas. Elles disent ce que doivent faire les moines pour atteindre un certain état. Donc, en d'autres termes, elles sont pas tellement indexées à des concepts ou à des propositions, mais elles sont plutôt indexées à une expérience. J'avais dit que c'était une pirouette au début. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de programmatique dans ce texte-là. J'ai l'impression que ce qui contrebalance, enfin, je crois que j'ai trouvé dans la forme programmatique ce qui, comment dire, je me suis autorisé quelque chose d'un peu programmatique à ce moment-là à cause de l'extraordinaire force de ce sur quoi j'écrivais, c'est-à-dire la ville, en fait. C'est-à-dire quelque chose en face duquel un individu, et tout le texte est finalement le discours d'un individu, le discours sensible d'un individu n'est rien du tout, en fait. Et le pouvoir d'un individu sur la ville est quasiment nul, en fait. Même s'il mobilise des efforts démesurés, s'il fait des attentats, etc., même ça restera quand même assez anecdotique. Et donc, du coup, je trouvais que ça autorisait quelque chose peut-être d'un petit peu plus fort. Voilà. C'est un peu confus, mais... Voilà.
Alors, c'est à moi, mais c'est aussi à vous. Je vous propose donc de poser des questions à nos deux intervenants. J'arrive avec un micro qui devrait fonctionner, voilà, puisque nos débats sont enregistrés.
Allô. Je voudrais juste revenir sur une de vos idées. Selon cette vignette que vous avez lue, qu'il y a une disparition, une évanescence du narrateur. Mais il y a ça pour justement se transformer en ville. Donc, et la ville devient le corps du narrateur. Donc, c'est la disparition menée à l'extrême. Et donc, au réel, à la source, je ne sais pas.
Allez-y. Pour rester un petit peu dans cette idée... démiurgique, il y a l'idée de, c'est ce que je disais au début en fait, c'est-à-dire arriver à remplacer l'usage collectif qui est fait de la ville, cette espèce de fonctionnalité en fait de l'espace urbain. L'espace urbain est d'abord souvent, en particulier aujourd'hui, fonctionnel avant d'être utile, avant d'être sensible ou beau ou spectaculaire. Et il y a l'idée de remplacer cette fonctionnalité par une fonctionnalité individuelle, en fait. Par le fait que la seule chose qui distribue l'espace urbain soit les sensations d'un seul individu. Enfin, c'est ce que je disais avant que vous arriviez, c'est que moi, la ville m'intéresse pas trop en tant qu'espace collectif. En fait, je suis toujours persuadé que je suis le seul habitant de la ville et que ce qui est, je pense, c'est ma sensation, mais je pense que c'est la sensation de beaucoup de gens. Je n'envisage la ville que comme spectacle. Comme scène, en fait, comme scène, comme attraction, comme plein de choses. Mais les questions, c'est pour ça que je suis toujours un peu comme une carpe devant un lapin face aux questions extrêmement nobles, mais d'aménagement urbain, d'espace collectif, en fait, je me les pose jamais. En règle générale, les gens qui me les posent, c'est les gens qui m'arrêtent ou qui m'interdisent d'entrer dans un endroit ou qui me disent « Vous n'avez pas de badge, vous ne pouvez pas rentrer à cet endroit-là. » Mais sinon, je ne me les pose pas, en fait.
Juste peut-être pour contribuer à répondre à votre question, qui est très juste et intéressante, peut-être deux remarques. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce livre, c'est outre... que je suis un fan du style de Philippe Vassé. Bon, c'est comme ça. Donc, j'aime beaucoup aussi la dernière phrase, « L'espace n'est plus qu'offrande à vos pouvoirs ». C'est-à-dire une sorte de renversement, où finalement, ce qui est apparemment l'individu faible et isolé devient en quelque sorte le potentat, en quelque sorte.
Et en fait, c'est une phrase qui est calquée sur un envoi, voilà, de fin de célébration. En fait, le célébrant dans n'importe quel culte, la phrase finale d'une célébration, c'est toujours « aller dans le monde et vous êtes porteur de quelque chose.
Et ce que je trouve assez intéressant dans cette inversion-là, c'est qu'en fait, on peut... Alors là, si on prend le terme des... Les expressions des sciences sociales ou de la géographie que je pratique, en fait, c'est aussi un livre qui, à sa manière, témoigne de ce que l'on appellerait la toute-puissance des spatialités humaines. C'est-à-dire, en fait, la manière dont l'individu investit l'espace, y compris le plus formel, déjoue toujours les pronostics, les normes et les standards. C'est aussi sans doute pour ça que les architectes sont intéressés par ce travail. C'est-à-dire que vous avez beau proposer des cadres extrêmement normés, en fait... L'individu, dans son usage du monde, pervertit pratiquement toujours ce qu'on lui propose et crée autre chose.
Mais je pense que la possibilité d'habiter est à ce prix, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'habiter dans le projet de quelqu'un d'autre. Enfin,
et d'ailleurs, l'habitation, c'est un déplacement au sens grec du mot déplacement, métaphorine. Hein. L'habitation, c'est toujours... transformer, transmuer, travestir, enfin tout ce qui renvoie à l'installation de quelque chose d'autre qui, encore une fois, déjoue la plupart des règles que l'on essaye d'y insérer, y compris lorsqu'on est soi-même le créateur de règles, puisqu'on est souvent assez prompt à déjouer soi-même ses propres règles.
Absolument.
Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans ce livre aussi, c'est que c'est une sorte de... Vous voyez, quand je disais que parfois la fiction nous donne des éléments presque de preuve, en tout cas des supports à notre réflexion. Puis il y a quand même une deuxième chose, elle serait presque un commentaire, une question. Je trouve que par rapport à vos autres livres, enfin moi, c'est celui que j'ai lu en dernier, donc peut-être que... C'est le dernier paru en plus, donc peut-être qu'il y a quelque chose de plus frais. Je trouve que par rapport à vos autres livres, ce qui m'a frappé, c'est que cette fois-ci, il y a quand même un peu de collectif. La fin de la conjuration, il y a des conjurés, c'est-à-dire il y a une sorte de petite bande qui se crée, il y a un petit monde qui se constitue autour du héros, au narrateur d'abord isolé. Nous ne sommes plus comme dans Carte muette où la personne est seule dans son igloo là, numérique. Il y a là quand même quelque chose comme, encore une fois, de l'ordre d'une règle commune. Donc, je trouve que ce livre est plus débouche sur plus de sens collectif que les précédents.
Oui, c'est ça que je voulais ajouter. Pourquoi que vous insistez de dire que c'est une expérience solipsiste? Parce qu'à mon avis, c'est aussi trop collectif. Enfin...
Bonne question. Je pense que je suis pas sûr d'avoir quelque chose d'intelligent à dire là-dessus. Vous avez entièrement raison. Je vais utiliser ma carte joker d'écrivain en disant que. mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de plus collectif. Comme expérience, je pense aussi que Alors si j'ai un début de réponse, mais il faut que je revienne un peu en arrière. Moi, je pense qu'une grande partie de l'existence. Moi, j'aime bien raconter autant je pense que raconter comme on a écrit un livre a assez peu d'intérêt à part entre écrivains. En revanche, raconter comment on raconte le livre, en fait, c'est-à-dire la vie du livre avant qu'il n'existe, a vraiment de l'importance parce que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est le livre, ce qu'il a essayé d'être et ce qu'il est peut-être encore. Et donc moi, je parle, en règle générale, je ne parle pas de mes livres quand ils s'écrivent, j'en parle à une seule personne, c'est mon éditrice. Et ce livre-là, donc en règle générale, quand je commence à écrire un livre, je décris ce dans quoi je me lance. Et donc cette fois-ci, je lui décris assez précisément, et j'ai toujours le désir de partager quelque chose de ce qui s'écrit avec elle pendant que ça s'écrit. Évidemment, ça n'arrive jamais pour une raison simple, c'est que je réécris encore plus mes livres que je les écris pour faire comme Michel Lussault et cité Deleuze, l'herbe pousse par le milieu. Donc du coup, j'ai pas envie de lâcher des choses qui, je sais, seront réécrites. Mais bref, la manière dont j'ai décrit ce livre, la première fois que j'en ai parlé à mon éditrice, je lui ai dit, voilà, c'est un livre érotique. Ouais. Inutile de vous dire qu'elle était un peu déçue quand elle a lu le résultat. Mais pour moi, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que le collectif, j'en arrive là, s'il y a une place du collectif dans ce livre-là, ou du moins c'est la question du collectif se poserait sur le mode de l'appréhension d'expérience érotique. L'appréhension d'expérience érotique, c'est toujours qu'est-ce que l'autre perçoit de moi et quel effet je lui fais, en fait. Et c'est je pense que le collectif dans ce livre est appréhendé un peu à cette aune-là. Voilà, c'est un début de réponse, il n'est pas parfait.
D'autres questions ? Oui, monsieur. En attendant, j'en profite pour poser la mienne. Le temps de... oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est enregistré ensuite, et donc ça permet à la fois de comprendre votre question et les réponses. Mais j'arrive vite et je vous laisse poser votre question.
Merci, madame. Juste la question qui est posée, justement. Faut-il habiter le monde pour l'écrire, si vous voulez nous dire quelque chose?
Dans mon cas, oui, absolument. C'est si vrai que, et je réponds à une question que posait Michel Lusseau en arrivant, moi, par exemple, j'arrive pas à écrire sur des endroits dans lesquels je n'habite pas. Par exemple, donc j'ai eu ce projet qu'a donné le livre blanc, qui était d'écrire sur les zones que les cartographes de l'IGN laissent blanc sur les cartes. Et au départ, c'était un projet beaucoup plus ambitieux, et je voulais écrire sur d'autres villes que Paris, en fait. Il y avait plusieurs villes, dont Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de prendre une carte IGN de Marseille pour voir à quel point c'est désirable. Sauf que ça ne s'est pas fait pour une raison simple, c'est que je n'habite pas à Marseille, et que très vite, en fait, c'est devenu du tourisme. Pour moi, c'est un truisme, mais le tourisme, c'est vraiment le contraire absolu d'habiter, en fait. L'expérience qui résume le mieux ça, c'est souvent quand on est enfant, qu'on va en vacances en Bretagne, on va pour la journée dans des îles. On y va en vedette, et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de louper le bateau de retour. Parce qu'en fait, c'est n'est qu'en loupant le bateau de retour qu'on cesse d'être un touriste pour devenir un habitant, même pour une nuit. Et que les questions brusquement de résidence, etc. se posent et que le lieu commence à exister, en fait. Donc moi, je ne peux pas écrire sur des lieux où je n'habite pas. C'est pour ça que ce qui éditorialement pose un problème, d'ailleurs, parce que j'écris essentiellement des livres sur Paris, pour une raison simple, c'est que j'y habite. Et c'est pas... J'ai pas du tout un fétichisme de Paris, en fait. J'ai un fétichisme du lieu où j'habite. Et pour aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a deux questions dans la question, et moi, je pense qu'il... encore une fois, en ce qui me concerne, mais pour moi, écrire, c'est... tous mes livres sont des tentatives d'habiter dans des lieux, en fait. Et donc... Tous les lieux sur lesquels j'ai écrit sont des lieux dans lesquels j'ai essayé d'habiter, mais vraiment. Ça a été des tentatives plus ou moins sérieuses, mais j'ai quand même essayé un peu sur le long terme, et j'ai pas eu besoin de me forcer parce que j'avais vraiment envie, en fait. Et le seul lieu, alors c'est drôle, le seul lieu sur lequel j'arriverai pas à écrire, je pense, c'est le lieu où j'habite vraiment, c'est-à-dire ma maison, en fait. Et il y a un écrivain que j'aime beaucoup, dont je suis très proche pour plein de raisons, et avec lequel j'aime beaucoup dialoguer, en particulier sur son dernier livre. C'est un écrivain qui s'appelle Thomas Clair, et dont le dernier livre n'est qu'un récit, n'est pas un récit, une description de son appartement, en fait. Et c'est les chapitres du livre correspondent à chacune des pièces de son appartement, en fait. Et c'est drôle parce que nos deux livres s'emboîtent vraiment exactement comme les deux pièces d'un puzzle. C'est-à-dire que pour moi, je n'aurais jamais pu écrire ce livre-là. En revanche, j'ai adoré le lire parce que je suis dans ce livre à la place que j'aime occuper, c'est-à-dire à la fenêtre regardant à l'intérieur, en fait. Donc voilà. Mais c'est un livre magnifique que je vous encourage vivement à lire.
Juste peut-être pour compléter, oui, c'est un livre très pérequin d'ailleurs.
Hein, absolument.
Puisque bon, même La vie mode d'emploi était de ce point de vue-là un livre de restitution d'une expérience habitante, hein, très, très, très structuré par la manière dont Pérec le décrivait. Je pense qu'on est obligé d'habiter pour écrire, en particulier des œuvres de fiction. Quand on fait des œuvres de sciences sociales, on peut se permettre de temps en temps de s'appuyer sur des béquilles conceptuelles ou des observations glanées par d'autres pour éventuellement écrire sur des lieux qu'on ne connaît pas. Moi, mon dernier livre, c'est sur le monde, pris globalement. Donc, c'est quand même un peu gros, hein, donc j'ai été obligé de me faire aider. Parce que même en ayant parcouru un peu, voilà, bref. Mais en revanche, je pense aussi que c'est nécessaire d'écrire pour habiter. Et en ce sens, pas forcément d'écrire soi, mais je pense que des livres comme celui-ci, ou comme Espèce d'espace, ou comme de grandes formes romanesques, hein, des grands romans, je pense que ce sont aussi des terrains d'expérience pour chacun, qui permettent à chacun justement peut-être de, sans forcément l'objectiver d'ailleurs, de réfléchir à la manière dont ils investissent les lieux, dans la manière dont ils habitent. Je pense qu'un des éléments clés dans le pouvoir de séduction d'un livre comme celui-ci, c'est qu'il nous fait vivre une expérience que chacun aimerait faire et qui par retour éclaire, me semble-t-il possiblement, la vie personnelle que chacun d'entre nous avons dans les lieux qui sont les lieux de notre habitat. C'est-à-dire, quand vous lisez un livre comme cela, je trouve que ça vous donne à penser sur ce que vous faites au jour le jour ensuite. C'est-à-dire que moi, après avoir lu ce genre de livre, quand je suis arrivé ici, c'est pour ça que ça m'a amusé en plus de venir à la Bulac. Pour ça, j'ai regardé les immeubles. Alors, j'étais en retard, donc je n'ai pas bien regardé. J'ai failli me casser la figure, mais je me disais, tiens, j'ai une autre manière de considérer les immeubles de bureaux maintenant quand j'ai lu cela. Et ça fait partie aussi de la relation entre l'habiter et l'écrire. C'est-à-dire, en lisant et en écrivant, j'habite aussi mieux le monde que j'habite. Et en l'habitant, je peux, si je suis écrivain, peut-être me donner les possibilités de mieux l'écrire. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental dans cette expérience-là. Très fondamental pour l'être humain, hein, de se donner des cadres d'expérience par procuration que permet la littérature.
Je vais aller un cran plus loin parlant d'un livre qui a été aussi, pour moi aussi important qu'Espèce d'espace, et qui est un livre où habiter, écrire et s'installer coïncident exactement. C'est-à-dire, c'est un livre qui ne raconte rien d'autre que l'installation de quelqu'un dans un espace et la tentative de cette personne de transformer cet espace en installation, c'est-à-dire en œuvre d'art. C'est un livre qui s'appelle À rebours, qui a été écrit de Huysmans. Et c'est un livre absolument vertigineux parce que c'est il est ce qu'il décrit, et il y a, c'est probablement un des très rares livres où les trois concepts qu'on a déclinés coïncident aussi impeccablement, c'est-à-dire le personnage est un créateur, le livre s'écrit au fur et à mesure que l'installation artistique, mais aussi l'installation domestique a lieu, tout coïncide en même temps, tout s'élabore en même temps, le cocon se construit autour du personnage en même temps que le texte s'élabore, et c'est un livre absolument vertigineux, séminal, après lequel il est très difficile d'écrire.
Nous avons avec Philippe Vasset, je le constate, des références communes. Ça ne doit pas être complètement hasard. On pourrait peut-être parler de Stevenson aussi, L'île au trésor, qui est aussi un très beau livre d'installation, hein,
absolument.
Quand on sait le lire.
Absolument.
Une dernière question. Oui. Monsieur ayant posé ma question, nous avons encore une dernière question.
Voilà, ouais, parce que à mon grand regret, moi, ensuite, il va...
J'ai remarqué qu'il était beaucoup question de neutralité, de transparence dans votre livre. Pourquoi ne pas l'avoir nommé, du coup, le livre transparent? Parce que le blanc n'est pas symbole de transparence, puisqu'il est symbole de pureté, et c'est pas une couleur neutre.
Alors...
C'est pas une question piège.
Merci de me le préciser, vous êtes pas aimable. Je vais être honnête, c'est pas très beau le livre transparent. La transparence qui m'intéresse, c'est la transparence des aquariums, en fait. Il y a un très beau livre, il y a un très beau mot qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par Huysmans pour qualifier l'eau des aquariums, c'est glauque, c'est ce vert un peu luminescent, et c'est cette transparence-là qui m'intéresse, pas tellement la transparence. Ce qui est intéressant dans les immeubles de bureaux, c'est précisément qu'ils ne sont pas transparents, qu'ils sont à la fois transparents et miroirs, et qu'on voit son ectoplasme dématérialisé en même temps qu'on voit les gens qui travaillent dans les bureaux. Voilà.
Eh bien, il me reste à remercier Michel Lussault et Philippe Vasset d'avoir échangé donc sur les rapports entre littérature et géographie. Nous ne quitterons pas complètement la géographie la semaine prochaine lors de notre rendez-vous pour une table ronde consacrée au lieu de la traduction, donc organisée par la BULAC jeudi prochain. Merci à tous de votre participation. Bonne soirée et à bientôt.